France Inter, il est 8h. Le journal Florence Paracuelos. Bonjour Florence.
Bonjour Ali, bonjour à tous. À la une ce matin, le coup fumant des Hollandais qui entrent en force dans le capital d'Air France KLM sans avoir prévenu personne. Le gouvernement des Pays-Bas ne veut plus subir une stratégie définie à Paris. Explication dans un instant. Combien d'automobilistes respecteront l'interdiction de circuler avec leurs véhicules polluants à Paris et à Lille? Nous serons avec des policiers qui commencent à dresser des PV à Paris en cette journée la plus chaude de l'hiver. Et à 8h20, Alice, c'est le ministre de la Transition énergétique qui sera à ce micro.
Transition énergétique et solidaire. François de Rugy, invité du grand entretien de la matinale. Le standard est ouvert. Posez-lui vos questions dès maintenant au 01 45 24 7000 ou sur l'application France Inter.
À la une également, l'Algérie et la rue contre Bouteflika, ça continue. Le grand débat est-il un succès avec 290 000 contributeurs sur Internet? Heure d'hiver ou heure d'été? Autre débat qui passionne les Français. Celui-là, les filles et le foot, à 100 jours du début de la Coupe du Monde féminine en France. Et une femme, quelle femme, Juliette Binoche, au cinéma ce mercredi.
France Inter.
C'est un peu la surprise du Hollandais volant, l'État néerlandais qui rachète en toute discrétion 12% d'Air France KLM. Question de souveraineté nationale pour les Hollandais qui n'avaient pas voix au chapitre, alors que leur compagnie KLM est bien plus performante qu'Air France. Mais l'annonce de cette montée au capital hier soir a stupéfié Paris. Bonjour Fabien Cazot.
Bonjour.
Personne n'était au courant, ni l'Élysée, ni Bercy, ni le conseil d'administration du groupe.
Non, l'opération a des airs de raid boursier menée non pas par une entreprise concurrente, ni par un fonds d'investissement, non. C'est un État qui est à la manœuvre, le pacifique royaume néerlandais, qu'il est beaucoup moins pacifique lorsqu'il s'agit de défendre les joyaux de sa couronne. La compagnie nationale KLM en est un. La couronne figure d'ailleurs dans le logo de la compagnie. Paris a été totalement court-circuité. Le ministre de l'économie Bruno Le Maire n'a pu que regretter hier soir que ni le conseil d'administration ni le gouvernement français n'aient été informés. L'opération a été menée tambour battant, 680 millions d'euros déboursés par le gouvernement hollandais en seulement 2 jours, dans le plus grand secret.
Alors les Pays-Bas vont monter jusqu'à 14% du capital du groupe. Fabien, ils veulent peser sur les décisions stratégiques, ce qui paraît bien normal vu les résultats de KLM.
Normal en tout cas vu d'Amsterdam, car KLM est clairement moteur des profits de l'ensemble du groupe Air France KLM. À elle seule, la compagnie néerlandaise représente 80% du résultat d'exploitation du groupe. Les Pays-Bas veulent avoir voix au chapitre. Ils avaient été échaudés ces dernières semaines par le risque de non-reconduction du patron de KLM fragilisé à l'intérieur du groupe. Grâce à ce rééquilibrage entre les États néerlandais et français, Amsterdam compte désormais peser davantage sur les orientations stratégiques du groupe Air France KLM, en particulier sur le choix de ses dirigeants.
Fabien Cazot, chef du service économique de France Inter. À Hanoï, c'est Boeing qui se frotte les ailes. 21 milliards de dollars de contrats passés par Donald Trump avec des compagnies aériennes vietnamiennes. C'est toujours ça de prix pour l'Américain qui doit rencontrer le dictateur nord-coréen Kim Jong-un en fin de journée pour un premier tête-à-tête et qui n'a pas de garantie sur l'issue de ce sommet où il sera question du nucléaire et des sanctions contre la Corée du Nord.
Dans l'actualité aussi, Florence, une question: jusqu'où ira la contestation en Algérie?
Encore une journée de manifestation hier contre un cinquième mandat d'Abdelaziz Bouteflika. Les étudiants ont défilé en masse dans tout le pays. Peu de journalistes étrangers sur place pour raconter cette révolte pacifique. Thibaut Cavaillès la suit à distance grâce au téléphone et aux réseaux sociaux.
On va vers la fac centrale, on est entré.
Étudiante en journalisme à Alger, Amira nous faisait vivre hier à distance son rassemblement.
Vive l'Algérie !
Avec l'accessoire indispensable du manifestant, un téléphone connecté.
Attendez juste une seconde, je vais vous passer un numéro.
Et pour seule limite, la batterie qui ne tient pas quand la manifestation dure toute la journée. C'était le cas à Alger, hier, où quelques échanges un peu tendus ont eu lieu avec la police. À Tizi Ouzou, 120 km environ à l'est de la capitale, le rassemblement a duré un peu moins longtemps, mais avec, comme dans tout le pays, le même mot d'ordre. Salmiya, pacifique, et dans la ville kabyle, des slogans en français, contre le cinquième mandat, ou bien...
Les étudiants s'engagent, système des gaz.
Miss Ipsa, qui ne veut pas donner son nom de famille, 20 ans, étudie la finance au sein de la fac de la ville.
Les étudiants ont tellement compris que c'est leur rôle donc, de porter ce sursaut populaire vers de réelles concrétisations et de réelles revendications. Donc quelque part, ils s'engagent vers ce combat et ils sont déterminés à faire sortir ce système.
Et toujours pacifiquement, étudiants, avocats ou simples citoyens, les Algériens qui descendent dans les rues semblent avoir compris que c'est ainsi qu'ils arriveront à se faire entendre.
Et demain, ce sont les avocats algériens qui appellent à manifester. Situation de plus en plus tendue entre l'Inde et le Pakistan après un raid indien en territoire pakistanais hier. Le Pakistan annonce ce matin avoir abattu 2 avions indiens à l'intérieur de son espace aérien. Et puis le cardinal George Pell, incarcéré ce matin à Melbourne, condamné pour le viol de 2 enfants de cœur. L'ancien numéro 3 du Vatican n'a montré aucun remords pour son comportement, a dénoncé le procureur australien au lendemain de l'annonce du verdict. Sa peine n'a pas encore été prononcée. Une nouvelle audience aura lieu dans 3 semaines.
8h06, retour en France et on se demande si on est vraiment le 27 février.
Oui, ce mercredi sera la journée la plus chaude de cet étonnant épisode estival, chaude et polluée, d'où la mise en place de la circulation différenciée dans les agglomérations parisiennes et lilloises. En Ile-de-France, 3 millions de véhicules ont l'interdiction de passer l'A86 vers Paris. Seules les vignettes 0, 1, 2 et 3 sont autorisées à circuler. Avec nous, Yann Gallic, en direct de la place d'Italie à Paris, où les contrôles de la police, Yann, viennent de commencer.
En effet, quelques policiers viennent juste de s'installer sur la place d'Italie pour contrôler les véhicules qui rentrent dans Paris. Les voitures dépourvues de vignettes critères et celles qui sont classées 4 ou 5, c'est-à-dire les plus polluantes, eh bien, elles sont interdites de circulation, au moins jusqu'à minuit. Une mesure plutôt bien acceptée par les automobilistes que nous avons croisés ce matin, comme Ahmed au volant de sa camionnette. Il pourra rouler normalement avec une vignette de catégorie 2 collée sur le pare-brise.
Il faut prendre des mesures et il y a trop de pollution. Et puis si on peut améliorer les choses, il faut faire un peu d'effort. Oui, moi je trouve ça normal. Oui. Ça embête les gens, mais pour des raisons de santé, je crois qu'il faut que tout le monde s'y mette un petit peu quand même. Moi je suis d'accord avec cette mesure, oui.
Des dizaines de contrôles policiers comme celui-ci ont été mis en place aux entrées de Paris et en proche banlieue. Les automobilistes pris en faute risquent une amende de 68 euros.
Yann Gallic en direct de la place d'Italie à Paris avec Marc Garvenès dans la métropole lilloise. C'est la première fois que la mesure est appliquée, mais elle épargnera les vieux véhicules pour peu qu'il y ait 2 personnes à bord. Libérés, Alexandre Benalla et Vincent Crase sont sortis de prison hier soir après une semaine de détention pour s'être rencontrés alors que la justice leur avait interdit. La cour d'appel de Paris estime que l'ancien collaborateur du président et l'ancien salarié de La République En Marche, mis en examen pour les violences du 1er mai, peuvent sortir sous contrôle judiciaire. Une question maintenant, à un peu plus de 15 jours de sa clôture, le grand débat est-il un succès? Le gouvernement s'en félicite, plus d'un million de contributions sur Internet. L'opposition est beaucoup plus perplexe, c'est un bide selon Jean-Luc Mélenchon. Alors que disent vraiment les chiffres entre contributeurs et contributions? Analyse signée Yael Gauz.
Attention, car derrière un contributeur peuvent se cacher plusieurs contributions. En moyenne, 3,7 pour un citoyen qui poste du contenu sur le site du Grand Débat. Ainsi, le 22 février, il y avait quasiment 290 000 participants sur la plateforme pour presque 1 150 000 contributions. Ça va du compte-rendu d'un débat organisé localement aux réponses rapides aux QCM proposées sur le site. 290 000 participants pour 40 millions d'électeurs, est-ce que c'est peu? C'est déjà plus que tous les gilets jaunes réunis lors de l'acte 1 mi-novembre au plus fort de la crise. Et de mémoire de politologue, c'est inédit, confirme Pascal Perrineau, l'un des garants du grand débat.
Quand vous comparez à d'autres opérations dans le passé, le questionnaire Sean de Balladur, sur la question européenne, vous n'avez jamais eu une participation pareille. Et c'est normal d'ailleurs, si vous voulez, quelque chose s'est mis en place avec le mouvement des Gilets jaunes, et quelque part, ça continue dans un mouvement de prise de parole.
Et puis il faut citer également les 10 500 cahiers de doléances remplis en mairie, les réunions publiques, déjà 6 000 organisées et plus de 2000 encore à venir. Quantitativement, c'est un succès, reconnaît même Chantal Joanneau, qui a pris ses distances avec Emmanuel Macron. Qualitativement, sur la diversité des opinions exprimées, il est encore trop tôt pour faire le bilan.
290 000 participants au grand débat sur Internet, ils sont bien plus nombreux à s'être intéressés à une autre consultation citoyenne sur Internet. Là aussi, pour répondre à cette question, faut-il arrêter de changer d'heure 2 fois par an et laquelle garder, l'heure d'hiver ou l'heure d'été? La Commission européenne se penche très sérieusement sur le sujet et les Français, Rémi Brancato, ont jusqu'à dimanche pour se prononcer.
Le changement d'heure, tout le monde en pense à peu près la même chose.
Ça n'a plus aucun intérêt.
Et la question passionne les Français.
Nous avons 370 000 personnes qui ont répondu à cette consultation en ligne.
La députée Liliane Attanguy est vice-présidente de la commission des affaires européennes qui l'organise.
On ne s'attendait pas à ce succès.
Et première tendance, 84% des sondés ne veulent plus régler leurs horloges deux fois par an, comme Françoise et Carole.
J'ai déjà du mal à dormir. Quand on me décale mes heures, ça ne va pas du tout pendant 15 jours.
Ça perturbe tout le monde, c'est pas forcément idéal.
Même résultat à l'échelle européenne avec cette enquête menée l'an passé par la Commission. Mais elle ne tranche pas la question qui fait débat. Faut-il rester à l'heure d'été ou à l'heure d'hiver ?
Équipe été, c'est quand même plus agréable. Les journées sont plus longues, on reste plus longtemps le soir. Les barbecues l'été, par exemple.
Je préfère l'heure d'hiver parce que je me sens mieux.
Moi, je préfère quand il fait jour plus tard, qu'il y a encore un petit coucher de soleil. Moi, je trouve ça trop beau.
Pour l'instant, c'est l'heure d'été qui serait en tête d'une courte majorité. Mais toutes les régions n'ont pas le même point de vue. C'est ce que rappelle la députée du Finistère, Liliane Attanguy.
À Brest, où le soleil se lève très tard en heure d'été, ça n'a pas les mêmes enjeux et intérêts qu'à Nice. Il y a une différence déjà entre Paris et Quimper, par exemple.
Et l'enjeu est de taille. Il faut tenter de satisfaire aussi bien les Bretons et les Alsaciens que les Portugais, les Allemands ou les Roumains dans un deuxième temps.
Et sur franceinter.fr, vous trouverez l'histoire du changement d'heure et des éléments pour faire un choix jusqu'à dimanche, donc sur Internet. Un pré-rapport saignant de la Cour des comptes sur l'ordre des médecins, révélé par le Canard enchaîné. Les hauts fonctionnaires y dénoncent des abus sexuels non sanctionnés, une comptabilité insincère et des rémunérations déguisées, entre autres. L'ordre conteste et la Cour déplore la publication de résultats confidentiels et provisoires. Tout est bon pour éviter les pesticides, la bonne vieille binette excessivement fastidieuse pour les jardiniers. Alors imaginez pour les agriculteurs. Non, pour eux, la solution, c'est peut-être le robot désherbant. Innovation présentée en ce moment au Salon de la agriculture, il travaille tout seul dans les champs de maïs, ce robot, Manuel Ruffez.
Il est petit pour pouvoir se faufiler, monter sur quatre roues motrices et il attire tous les regards.
Il s'appelle comment ce robot ?
Il s'appelle SigmaBot.
C'est incroyable parce que les gens prennent des photos du robot. Et tout,
c'est... Oui, en permanence, c'est vrai qu'il suscite un grand intérêt.
C'est surtout un concentré de technologie. Il utilise pour se déplacer le même dispositif LIDAR que les voitures autonomes, un ordinateur de bord pour le calcul des déplacements et la reconnaissance des images, car effectivement, il détecte les mauvaises herbes. Cédric Drouet, l'un de ses concepteurs, fils d'agriculteur et étudiant à Sigma Clermont, l'école d'ingénieurs de Clermont-Ferrand.
Alors c'est de la colorimétrie, c'est simplement une caméra qui va analyser en temps réel la parcelle de terrain qui est sous la caméra et s'il voit une mauvaise herbe, à ce moment-là, il va allumer le système de traitement.
Car ça ne remplace pas les produits de traitement mais permet en étant très précis d'en utiliser moins et au bon endroit et au bout du compte, malgré le prix, être rentable.
L'ensemble des éléments assemblés fait une valeur d'à peu près 10 000 euros. C'est quand même un investissement, mais au final, on réduit les coûts, notamment en achetant moins de produits, en pouvant passer plus souvent pour pouvoir traiter régulièrement les mauvaises herbes qui apparaissent. Et finalement, sur le long terme, ça peut être rentable d'acheter des robots.
Ce n'est qu'un prototype qui déjà suscite beaucoup d'intérêt et nos deux étudiants comptent bien l'améliorer encore cette année.
Exit l'entraîneur de Bordeaux, c'est du foot. Le club se sépare du brésilien Ricardo pour cause de mauvais résultats. Bordeaux est 13e du championnat. Le foot, c'est aussi la victoire facile du PSG hier soir qui s'est qualifié pour les demi-finales de la Coupe de France en battant Dijon 3-0. Et c'est enfin la Coupe du monde de foot féminine dans 100 jours en France. Il s'est déjà vendu 500 000 places, il en reste 800 000 pour aller voir les matchs à partir du 7 juin, information France Inter. Car on le dit, depuis un bon moment déjà, le foot féminin a conquis les amateurs et les jeunes femmes. Guillaume Batin, de plus en plus nombreuses à chausser les crampons.
Au bord du terrain, où de jeunes joueuses de Seine-Saint-Denis sont en stage de foot pendant les vacances, ces deux papas, Christian et Rachid, retrouvent le football de leur enfance.
Il n'y a pas de tricherie, c'est convivial et tout. Et on est là pour les encourager, pour les soutenir. Elles gagnent, tant mieux. Elles perdent, tant pis. Mais dommage.
Louisa est venue pour encourager sa grande sœur, mais plus tard, elle rêve de devenir joueuse de football professionnelle. Et sa maman a bien compris le message.
Je compte un jour jouer en équipe de France. Enfin, j'espère que je pourrai un jour. Hein. C'est encore un rêve pour moi, mais bon, j'espère y accéder.
Elle a fait 2 mois de danse, elle a arrêté en plein milieu pour me dire qu'elle voulait faire du foot et donc voilà, je sais que c'est ce qu'elle veut faire.
À la Fédération française, des femmes accompagnent le développement du football féminin. Brigitte Henriques, la vice-présidente, et l'ancienne judokate, aujourd'hui secrétaire générale, Frédéric Jocinet.
Il y a quelques années, c'est vrai qu'on se demandait encore dans les familles si les féminines et les petites filles avaient le droit de jouer au foot. Aujourd'hui, très clairement, on se pose plus la question, c'est plutôt où est-ce qu'elles peuvent jouer au foot. Et ça, c'est vraiment à nous, fédération, de travailler pour que n'importe quelle jeune féminine ou moins jeune qui a envie de jouer au foot puisse le faire.
Avec 180 000 licenciés, trois fois plus qu'en 2010, le football féminin est en plein développement, mais la marge de progression est énorme face aux 2 millions de footballeurs.
Où sont les femmes, Ali, sur les terrains de foot? On vient de l'entendre. Et puis au cinéma, cette semaine, l'immense Juliette Binoche est celle que vous croyez, un film de Safi Nebbou, adapté d'un roman de Camille Laurence. Il y est question, Eva Bétan, de l'amour à 50 ans, d'images et de mensonges sur les réseaux sociaux.
Même elle, même une femme de la beauté de Juliette Binoche ne serait donc pas à l'abri de cette dévaluation que les femmes, avec l'âge, subiraient sur le marché de la séduction, permettant à un amant, sans autre qualité que ses 20 ans de moins, de parler avec dédain au personnage qu'elle interprète. On peut y croire, car l'histoire vient du roman de Camille Laurence, écrit à l'os, écrit du côté des femmes. Et aussi parce que, en creux, le film est un reportage sur les qualités d'actrice de Juliette Binoche. Certaines péripéties qui coule par écrit, se révèle ardu à rendre à l'image. L'héroïne s'invente une autre identité sur Internet, jeune et belle, surtout jeune et donc désirable, tout au moins virtuellement. Au cinéma, cela conduit l'actrice à être seule à l'écran une partie du film, dialoguant avec un homme via un ordinateur ou un téléphone. Le film pêche par la conduite de son récit, mais il sonne juste en revanche, grâce à la violence que l'actrice y met, dans la nature des sentiments qui sont à l'œuvre ici. Un besoin essentiel, parfois dérangeant, d'être aimée, désirée et donc reconnue, acceptée parmi les vivants.
Eva Bétan, enfin dernier mot pour vous dire que c'est Alejandro González Iñárritu qui présidera le jury du prochain festival de Cannes, réalisateur mexicain. Ils ont la cote en ce moment, c'est lui qui a signé 21 grammes, Birdman ou Babel.
Formidable Babel, voilà. Merci Florence. 8h16, la météo.
La météo avec Bleu Forêt, le fabricant français de chaussettes pour femmes. Laine, fil d'Écosse, soie ou cachemire. Belle et naturelle. Rendez-vous sur bleuforêt.fr.
Marie-Pierre Planchon, grande amplitude entre ce matin et cet après-midi.
Et oui, par exemple, Ali, ce matin, cet après-midi, on va avoir à Strasbourg 20 degrés d'écart entre ce matin où il fait zéro et cet après-midi où on attend 20 degrés. On a aussi encore quand même quelques gelées ce matin vers Mourmelon dans la Marne avec moins 5. Il fait moins 3 dans les Ardennes, moins 2 à Nevers. Contraste avec les 15 degrés relevés déjà dans l'Aude. Et après la dissipation de ces brouillards, nous vivrons la dernière journée printanière ou estivale à voir, car dès demain, l'anticyclone aura une petite faiblesse et va laisser rentrer un défilé de perturbations donnant des pluies jusqu'à la semaine prochaine, excepté dans le sud. On espère que ça va chasser la pollution.
Et un après-midi estival.
Oui, sous cette pollution. Donc on sera 10 à 12 degrés au-dessus des normales. Au plus bas, il fera 18 à Abbeville comme à Toulon et Ajaccio, 19 à Lyon comme à Quimper. Comptez 22 à Clermont-Ferrand comme à Nantes, 23 à Aurillac. Il fera 21 à Paris à l'ombre, alors qu'il fera 17 à Nice. Le mercure va grimper jusqu'à 27 à Mont-de-Marsan. Et alors qu'aujourd'hui, on va se croire en été, rappelez-vous, l'année dernière, à la même époque, nous subissions le fameux vent, le Paris-Moscou, qui à l'averse avait provoqué une vague de froid, avec des températures plongeant à moins 10 à Paris, moins 12 à Nevers. On ne sait vraiment plus à quelle girouette se vouer.
Merci Marie-Pierre.